C'est une médiatisation tout d'abord qui est commune dans les sociétés scandinaves, qui sont des sociétés extrêmement transparentes de ce point de vue-là. Le risque, c'est effectivement qu'Anders Breivik utilise, comme il en a visiblement l'intention, et son avocat l'a confirmé, ce procès comme une tribune supplémentaire pour proférer des propos qui, a prévenu son avocat, choqueront l'opinion publique et bien évidemment la cour, parce que cet homme, bien qu'il plaide non coupable, revendique son geste comme un geste politique et il a l'intention d'en expliciter les raisons, ce qui permettra peut-être d'ailleurs, faut voir le bon côté de la chose, de mettre un petit peu de lumière, non pas sur les faits eux-mêmes, qui sont assez bien connus, mais sur les aspirateurs de son passage à l'acte, puisque lors de la publication de son manifeste d'un peu plus de 1000 pages, Breivik avait cité quantité d'auteurs, cela veut donc dire qu'il avait lu, même si c'est principalement sur Internet. Cela permettra sans doute de savoir donc comment il s'est forgé sa pensée entre le moment où il quitte le Parti du Progrès norvégien en 2007 et celui où il décide de perpétrer son acte.
Est-ce que vous pensez que les médias, et notamment les médias norvégiens, sont conscients de cette ambivalence?
Les médias norvégiens sont parfaitement conscients de cette ambivalence. Ils ont choisi dès le départ de faire avec la voie que la justice avait choisie, qui était donc d'avoir un procès public. La véritable discussion, c'est de savoir si ce procès n'aurait pas dû avoir lieu à huis clos, mais ça n'est absolument pas dans la culture scandinave, d'une part, et puis d'autre part, je crois que les autorités ont choisi effectivement la voie qui consistait à montrer à l'opinion publique que la démocratie continuait à fonctionner et qu'elle était capable de traiter avec les règles juridiques normales un cas tout à fait exceptionnel, en tout cas à l'aune de la Scandinavie, de ce petit pays tout de même qui est la Norvège. Autrement dit, qu'il ne fallait pas avoir de juridiction d'exception ou de loi d'exception pour ce qui est de très très loin l'acte le plus tragique qu'ait connu l'histoire norvégienne depuis 1945.
Pour la Norvège, est-ce que ce procès peut aussi avoir une fonction cathartique, puisque c'est un pays dont on n'entend pas souvent parler et il est vrai que la tuerie d'Oslo apparaît comme un traumatisme pour tous les Norvégiens. Est-ce que vous pensez que voilà, les Norvégiens mettent beaucoup d'espoir au niveau symbolique dans ce procès?
Sur ce point, parce que même si le Parti du Progrès, aux élections locales de septembre 2011, a connu une baisse assez importante du fait de la proximité, temporelle entre les actes d'Oslo et d'Utøya et le scrutin, il ne semble pas y avoir de remise en question massive dans la société norvégienne, je vais dire du pourquoi profond de l'acte de Breivik. Or, le pourquoi profond, on le connaît tout de même. C'est l'émergence d'une droite populiste et xénophobe qui n'a jamais été associée au gouvernement, mais qui rassemble plus de 20% des voix, souvent aux alentours de 22-23, et qui distille depuis déjà plusieurs décennies une idéologie qui est à l'exact opposé de la tradition scandinave de multiculturalité et de tolérance, qui par conséquent a distillé en quelque sorte un poison dont à un moment donné, un individu dont il est évident qu'il est mentalement tout de même un petit peu hors norme, n'avait plus qu'à s'emparer pour ensuite traduire les mots en action. Et là-dessus, malgré tout, il ne me semble pas, malgré l'unanimité du sursaut national, tout ce qu'on a pu voir dans les heures et les jours qui ont suivi immédiatement les tueries, il ne me paraît pas qu'il y ait de remise en question très très profonde du comment on en est arrivé là, ce qui est au fond le seul problème qui véritablement vaut d'être élucidé.